Sylviane Agazinski, bonjour.
Bonjour.
Merci de venir parler sur Radio Classique ce matin. J'ai assisté jeudi dernier à cette réception à l'Académie française, à votre réception sous la coupole. Un très beau moment d'esprit, de convivialité, de culture. Que ressent-on à ce moment-là?
D'abord, on a très très peur de rater une marche en descendant l'escalier, de glisser avec une paire de chaussures neuves. On se dédouble un tout petit peu, c'est-à-dire qu'on dit un peu, c'est bien moi, ça, qui suis... le matin, je me réveille encore en disant, mais oui, ça s'est vraiment passé comme ça. Donc, il y a un étonnement, il y a un plaisir, il y a une fierté, parce que j'admire cette institution, donc... Je suis d'une certaine façon honorée d'avoir été reçue, et avec quelle amabilité, parce que l'Académie, c'est pas seulement la profondeur de l'histoire littéraire de la France, les plus grands écrivains, donc on se sent tout petit, on se sent modeste quand on arrive dans cette maison merveilleuse, et on de plus j'ai été aussi accueillie par une grande chaleur, beaucoup d'amitié, enfin c'est... J'ai rappelé que Voltaire avait dit que l'Académie avait été à son origine, avant que Richelieu lui donne ses statuts et la finance aussi d'une certaine manière, qu'elle était née dans le sein de l'amitié. Ça me paraît tout à fait essentiel, parce qu'on a des amours communes, la littérature,
les mots et les concepts,
la langue. Oui.
Sylviane Agazinski, lors de cette cérémonie, Marc Lambron, que nos auditeurs retrouvent chaque matin pour sa chronique du bon usage, et le mercredi matin avec Routel Krief, a dressé votre portrait, c'est la tradition. Le nouveau qui arrive entend son portrait par un ancien. Là encore, qu'est-ce qui vous a touché dans les mots de notre collègue académicien, de votre collègue académicien ?
Ah, beaucoup de choses. Je l'appréciais encore plus. Je l'avais un peu vu avant, on en avait parlé. Je l'ai écouté et je l'ai relu après. Et j'ai trouvé encore meilleur. J'ai encore plus apprécié que la première fois, finalement. D'abord, en grand romancier qu'il est, il a fait de ma vie un roman.
Ça,
c'est pas tous les jours. Bien sûr, on se raconte ses propres histoires, ça, mais c'est pas du tout la même chose.
C'est pas un CV, quoi.
Et là, non. La manière dont il pense les choses, décrit les choses, mélange de hasard et de nécessité, etc. Bon, c'est très bien. J'ai aussi apprécié, j'ai noté les certains mots qu'il avait utilisés, qui me plaisent bien, nuancer, la subtilité, la pensée non alignée. Alors ça me convient très bien. C'est synonyme de pensée libre, hein, la pensée non alignée. C'est tout simplement ça. C'est la moindre des choses quand on pense de ne pas être aligné. Je crois que c'est Orwell qui disait on peut pas à la fois être philosophe, intellectuel, enfin penser, essayer de penser quelque chose, et puis être solidaire d'une ligne et d'un parti. C'est pas compatible, ce qui n'empêche pas de s'intéresser à la politique.
Quand on s'est parlé pour préparer cette émission, vous m'avez dit, moi je suis pas une femme de gauche, je veux pas être classée, je suis philosophe avant tout. Et donc c'est la philosophe que je vais interroger maintenant. Il y a beaucoup de débats en ce moment sur la constitutionnalisation de l'IVG, c'est fait, sur la loi en préparation sur le droit à mourir. À la une du Figaro ce matin, il y a les inquiétudes des sénateurs sur la transidentité qui veulent interdire les bloqueurs de puberté qui permettent à certains adolescents de préparer leur changement de sexe. Et ça inquiète les sénateurs parce que c'est trop tôt. Sur la différence des sexes, vous avez beaucoup écrit, Sylviane Agazinski. Pourquoi ce sujet vous a-t-il passionné ?
Je fais une petite remarque juste avant sur femme de gauche. On a du mal aujourd'hui à comprendre qu'un individu, il n'est pas fait d'une seule pièce, et qu'on est, si vous voulez, en tant que citoyenne, je vote, j'assume les responsabilités politiques, je sais toujours voter, j'étais trop contente que les femmes votent, elles n'ont pas toujours voté. Bon, donc, la gauche, parfois, ça se repère à tel ou tel vote, mais aujourd'hui, c'est vrai que je suis assez perdue, donc je laisse ça de côté. Et puis, en tant que philosophe, et il y a en tant que femme aussi, en tant que mère, en tant qu'épouse, vous avez tous ces termes, en tant que, par exemple, sportive, en tant que ceci et cela. Il faut vraiment entendre ces différents en longtemps que pour comprendre quelque chose finalement au caractère assez disparate finalement de la personnalité et puis aussi des contextes dans lesquels on parle, etc. Donc je reviens à votre sujet, pardon, donc la question c'était
ma question,
la dernière.
Ma question portait sur votre intérêt pour ce sujet, d'abord sur l'égalité des sexes, parce qu'on vous doit un gros débat sur la parité politique dans les années 80-90, et puis ensuite on vous doit des polémiques sur le fait que vous ayez affirmé qu'on a beau être égaux, nous sommes différents dans nos sexes, hommes et femmes.
Reconnaissez tout de même que c'est assez marrant, si j'ose dire, c'est assez drôle qu'on puisse aujourd'hui s'étonner qu'on rappelle quelque chose d'aussi évident, d'aussi immémorial, d'aussi fondamental que le fait que le genre humain, moi le mot genre en français pour moi c'est d'abord le genre humain, et que le genre humain est essentiellement sexué partout, toujours. Quand on a découvert Lucie, la première australopithèque dont on a fait ensuite qu'elle s'est mise debout, on a dit « Ah oui, on a regardé les eaux du bassin, on a dit « Ah, c'est une femme ». Je veux dire, il y a plutôt quelque chose de l'ordre d'une aberration extraordinaire, étrange, paradoxale, d'une provocation à contester la différence des sexes. Et moi, si je me suis intéressée à cette question, bien sûr, là, il y a aussi une multiplicité de raisons. Et pour être rapide, il y a quelque chose d'existentiel. Il y a le fait que je suis une femme et que je suis née à une époque. Effectivement, il y a des femmes, des mères, il y avait des conditions. Et il y a l'histoire des femmes dont j'étais très consciente. Je veux dire, ma jeunesse, c'est le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. On est toutes passées par là et c'était tout à fait important. Et si vous voulez, la deuxième chose, c'est aussi en tant que philosophe, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est que cette différence des sexes ? La première chose, évidemment, c'est que nous sommes des êtres vivants. Moi, je suis lectrice de Lévi-Strauss, de François Jacob, et je regarde aussi l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas une seule société, il n'y a pas un seul groupe humain qui ne soit pas fait d'hommes et de femmes. Pourquoi ? Parce qu'on est, je disais mortel tout à l'heure. Non, j'ai pas dit mortel, j'ai pensé le divin et les mortels. Les dieux grecs avaient ceci de particulier qu'ils rappelaient toujours aux hommes qu'ils étaient que des mortels. Mais ça veut dire quoi, mortel ? Ça veut dire vivant, sexué, se reproduisant sexuellement et mortel. Tout ça forme un tout. François Jacob l'explique très bien. Ça forme un tout. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de comprendre, d'une part, de quoi il s'agissait. Donc, nous sommes des vivants parlants et sexués et mortels. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé historiquement ? Pourquoi dans les civilisations, pas seulement occidentales, hein, Lévi-Strauss disait, pardon, je me réfère, mais la réflexion se réfère aussi aux sciences.
On ne peut pas reprocher à une académicienne d'avoir des références, ce serait embêtant quand même.
Non, et puis c'est pas n'importe quelle référence. Lévi-Strauss disait une chose qui m'avait beaucoup frappée dans une émission de télévision où il parlait avec François Jacob, il lui a dit... Je ne connais aucune société, il en connaissait beaucoup, hein, qui n'ait pas considéré les femmes comme le sexe dangereux. Ça m'a beaucoup parlé. Le pourquoi le sexe dangereux ? Ben parce que c'est une puissance maternelle, pas parce que c'est des pauvres petites créatures qui ne sont jamais que des victimes. Non, c'est un sexe puissant. Et la puissance de ce sexe, qui est la puissance justement d'enfanter, c'est à la racine de l'appropriation des femmes par les hommes, parce que, comme le disait saint Augustin, vous voyez, autre référence, sans le mariage, sans l'union avec une femme, et parfois plusieurs, eh bien, les hommes ne connaîtraient pas leur enfant.
C'est le début de vos ennuis avec le mouvement woke. Vous avez dû annuler une conférence à Bordeaux pour défendre cette thèse qui, pour beaucoup de nos auditeurs et beaucoup de Français, relève du bon sens, mais il y a tout un courant, incarné notamment par Judith Butler, qui a récemment fait parler d'elle, la philosophe qui, elle aussi, a expliqué, elle a voulu démontrer que les sexes étaient une construction politique et sociale. Vous, défendre ce que vous venez de dire, vous opposer à la GPA, la gestation assistée pour autrui, expliquer qu'on pouvait être égaux tout en étant totalement différents, que la différence des sexes était fondamentale.
Pas totalement.
Non, mais la différence des sexes, ça vous a valu d'être interdite de conférence à l'université de Bordeaux. Comment vous expliquez que l'université aujourd'hui soit pas complètement un lieu de liberté ?
Bon, l'université, elle est massivement un lieu de liberté. Faut quand même relativiser. Faut pas non plus trop gonfler les choses. L'université de Bordeaux, c'est très anecdotique. C'était un groupuscule de trans qui, à Bordeaux, on a parfois parlé du mouvement LGBT, s'oppose au mouvement LGBT. Il faut bien comprendre que entre les mouvements gays, lesbiens, etc., et les trans, il y a des conflits et que les trans sont en train de gagner du terrain, d'où les luttes pour la transition d'un sexe à l'autre, y compris chez les adolescents. Donc non, il y a quelquefois un peu de manque de responsabilité, de courage du côté non seulement des universités, enfin de la direction des universités, mais plus généralement, moi je suis très inquiète sur une certaine démission, un certain recul, une certaine crainte de ceux qui sont responsables finalement d'un certain nombre de choses. Les médecins, les professeurs, en tout premier lieu les parents, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'ils font avec leurs enfants. Il y a une tendance à la démagogie ou à quelque chose d'une démission, c'est-à-dire on fait abstraction de son propre savoir, on fait abstraction de sa propre expérience, alors qu'on est là pour transmettre des choses, des savoirs, mais aussi des valeurs fondamentales. Mais le cœur du problème, vous l'avez dit, vous avez évoqué le wokisme, mais vous avez évoqué Judith Butler, c'est-à-dire non pas la théorie du genre, comme on dit, en mélangeant un petit peu beaucoup de choses, parce qu'il y a aussi le genre social, ça existe, c'est un concept très utile. On sait très bien qu'être femme est une chose, porter des hauts talons, des bijoux, s'habiller comme ça, avoir telle place dans la société, c'est autre chose, c'est le sexe social. Donc le gender, à l'origine, ça avait du sens. Mais la queer théorie nous dit tout à fait autre chose, et ça n'est pas du tout ni un féminisme, ni un néo-féminisme, c'est un véritable contre-féminisme. Pourquoi ? Parce que s'il n'y a pas de femme, ça veut dire quoi, féministe ? Or, chez Judith Butler, l'idée que alors, en plus, on nage dans des absurdités extrêmement profondes. Il faudra bien qu'un jour, cette bulle explose. Parce que lorsqu'on dit que l'altérité, l'autre sexe, en fait, est une construction sociale qui n'a rien de naturel, comme si le mot nature, la nature n'existait absolument pas, et c'est une aberration, parce qu'en plus, on nous dit c'est une construction sociale née de la domination culturelle hétérosexuelle. Alors on dit le mot hétéro, alors ça veut dire quoi hétéro ? Ça veut dire l'autre à ma connaissance. Homo, ça veut dire le même. C'est-à-dire vous ne pouvez absolument... Tous ces raisonnements s'articulent en fait, finalement, avec l'idée qu'il y a quand même du même et de l'autre, puisque sinon il n'y aurait pas d'hétérosexualité.
Sylvia Nagasaski, est-ce que vous reviendrez ?
Où ça ?
À Radio Classique.
Ah, mais avec plaisir.
J'ai pas posé la moitié des questions que je voulais poser.
On a déjà fini, là ?
Ben, on a déjà fini. Je vous en pose une dernière qui a son importance tout de même. Votre position sur l'aide à mourir et cette loi en préparation qui fait passer de l'accompagnement médical à ce qu'on appelle l'euthanasie, mais qui ne dit pas son nom.
Alors, je ne sais pas s'il faut appeler... le mot euthanasie n'est heureusement pas prononcé. Ce que je pense, c'est que oui, on est dans un monde où non pas on doit tout pouvoir et tout faire, mais où la question des conditions de la mort se pose, et c'est une je dirais pas seulement une vraie question, mais ça doit être possible. Moi, ce qui m'intéresse dans le projet, c'est qu'il y a une chose très importante, c'est la notion de suicide assisté, et que en cas de suicide assisté, sauf si quelqu'un est totalement paralysé par exemple, si le mot suicide veut dire quelque chose, c'est-à-dire se tuer soi-même, il faut qu'il y ait un geste de la personne. Et ça, c'est très important. Ce doit pas être le médecin simplement qui fasse mourir, ce doit être la personne qui le souhaite, qui prenne la décision ultime. Et puis d'autre part, je pense aussi qu'on ne peut pas poser cette question des conditions de la mort sans revenir, c'est un peu comme l'IVG, aux conditions de la vieillesse, c'est-à-dire la vie dans les EHPAD, le maintien à domicile, les conditions des soins, le soin palliatif. Si vous voulez, si vous avez déjà un certain nombre de gens qui n'ont pas accès aux soins palliatifs, si vous voulez, c'est très grave. Donc il faut qu'il y ait toutes ces conditions avant pour voir ensuite comment bien mourir, à supposer que ce soit possible.
Sylviane Agazinski, comment bien penser, philosophe et désormais académicienne, merci d'être venue parler sur Radio Classique ce matin. J'espère donc que vous reviendrez. Et je salue amicalement Marc Lambron qui a facilité cette venue et que vous retrouvez demain à 7h20 pour la chronique du bon usage avec Routel Krief, un peu plus tard à 8h40. Merci madame l'académicienne. À suivre,
merci.
Le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres du mardi. Lucie Robquin des Échos et Christophe Barbier, éditorialiste, écrivain et comédien Radio Classique.